The Sangha is invited to come back to our breathing so that the collective energy of mindfulness can bring us together as an organism, flowing as a river with no more separation. Let the whole Sangha breathe as one body, listen as one body, chant as one body, transcending the boundaries of a delusive self, liberating us from the superiority complex, the inferiority complex, and the equality complex.
From the depths of understanding,
a flower of great eloquence blooms, the Bodhisattva stands majestically upon the ways of birth and death, free from all afflictions. A great compassion eliminates all sickness, even the ones thought of as incurable. A wondrous light sweeps away all obstacles and dangers. A willow branch once bravely built, how does Buddha land?
Pensez, pensez, incurable. Cher Sangha, nous sommes le 6 février l'an 2014. Nous sommes dans la salle de méditation, l'eau tranquille. Tu as Mudio pendant la retraite d'hiver, l'an 2013-2014. Dans la formation mentale, parmi les formations mentales que nous avons apprises, il y en a une appelée l'élan vital. Que l'école Theravada appelle la vitalité. Et l'alaya est la base de cet élan vital. Quand nous, dès notre conception, dans le ventre de notre maman, nous avons déjà cet élan vital. Et nous avons l'élan vital du corps et l'élan vital de l'esprit. Rupa en sanskrit, Rupa c'est le corps et Nama c'est l'esprit en sanskrit. Nama Jivitindriya, c'est l'élan vital de l'esprit, c'est presque soi-disant l'âme, c'est presque comme ce qu'on appelle l'âme. Il y a sensation, perception, formation mentale et conscience. Et puis il y a l'élan vital du corps. D'un côté, c'est la matière, et l'autre côté, ce sont les sensations, perception, formation mentale et conscience. Et quand nous sommes conçus dans notre maman, dans le ventre de notre maman, nous avons le corps, et dans le corps, il y a un élan vital. Il y a une poussée, un élan. Et dans le corps, il y a ça. Et dans la conscience, c'est-à-dire les sensations, perceptions, formation mentale et conscience, il y a la même chose. On peut traduire l'élan vital ou vitalité. Et quand nous sommes conçus dans le ventre de notre maman, notre élan vital fait un avec l'élan vital de notre mère. La vitalité de notre mère nous pénètre et notre propre vitalité pénètre notre maman. Ce n'est pas un seul, mais ce n'est pas les deux non plus. C'est comme l'âme de la maman et notre âme ne sont pas deux choses séparées. Et quand la maman nous donne essence à nous, c'est comme s'il y avait une autre âme. Maman a une âme et puis l'enfant a une autre âme. Au début, c'est une et puis après, on pense que on peut les séparer, les diviser, mais en réalité, il y a une continuation. En regardant l'enfant, on voit la maman, et en regardant la maman, on voit l'enfant. Et en général, on divise les êtres animés des êtres inanimés. Nous les divisons en deux catégories, mais En réalité, cette division n'est pas correcte. Parce que ce que nous appelons les êtres inanimés, ils ont aussi leur vie. Par exemple, comme dans la graine de maïs, il y a la vie. Il y a le savoir. Il y a l'intelligence. Et nous croyons que la graine de maïs est inanimée, mais au fait, il y a le savoir en elle. Elle sait comment germer, elle sait comment produire des plantes, des feuilles, pour devenir une plante. Alors on ne peut pas dire que cette graine est inanimée. Et les scientifiques ont trouvé aujourd'hui que les particules subatomiques ont leur savoir aussi. Ils ont aussi leur savoir. C'est pour ça, en regardant la lune, les étoiles, nous voyons que elles sont aussi notre conscience. Nous sommes aussi la conscience, nous sommes aussi la lune et les étoiles. Cette retraite d'hiver, nous avons appris la manifestation seule. Et ceci est le texte que tu as écrit pour résumer tout ce que nous avons appris pendant cette retraite d'hiver. Et ce Chinduk est en train de le traduire en anglais pour que nos frères et sœurs anglophones puissent lire tout ce que nous avons appris cet hiver et résumé dans ce texte. Et sachez que dans cette graine de maïs, il y a la vitalité, il y a l'élan vital. Et dans cette particule subatomique, dans cette poussière, dans ce grain de poussière, il y a aussi la vie, et nous ne pouvons pas établir une frontière entre les êtres animés et les êtres inanimés. Nous ne pouvons pas dire qu'il y a la matière vivante différente de la matière non vivante, parce que de la matière inerte. Parce que dans la matière inerte, ce que nous appelons comme matière inerte, il y a aussi la vie. Et c'est pareil pour les êtres animés et inanimés. Il n'y a pas de frontière. Dans les êtres inanimés, il y a aussi la vie. Dans le sutra du diamant, nous avons appris cela. Les êtres inanimés sont faits des êtres inanimés. Si on enlève les êtres animés des êtres inanimés, alors ceci n'existerait plus. Alors, en regardant un nuage, nous pouvons voir la vie dans ce nuage. Le nuage a sa vie. Le nuage a de la vie en lui, et il a sa propre vie. Et quand il n'est plus, on dit qu'il est mort, mais en réalité, il ne meurt pas. Il devient simplement la pluie. Et c'est pareil. La pluie peut mourir, elle peut devenir la rivière, et puis elle peut redevenir le nuage. C'est pour ça que le nuage peut aller dans un cercle de samsara. Elle continue. Et en étant nuage, il peut vivre profondément sa vie en tant que nuage. Et quand il devient pluie, la pluie peut vivre profondément sa vie en tant que pluie et nous sommes pareils. Nous avons une vie et vivons profondément notre vie pour vivre notre vie en profondeur. Il faut vivre sa vie en profondeur. Et nous sommes comme les nuages, nous ne mourrons pas. Rien ne peut mourir. Et les sciences ont trouvé cela. La matière et l'énergie, leur nature est la non-naissance et la non-mort. C'est pour ça que ce qu'on appelle la mort, c'est simplement la continuation sous une autre forme. C'est la continuation. C'est pour ça que le nuage devrait vivre profondément. Comme ça, quand il devient la pluie, il va vivre profondément en tant que pluie aussi. Il faut vivre sa vie de nuage en profondeur. Et quand le nuage deviendra pluie, il vivra également profondément sa vie de pluie. Il faut apprendre à vivre profondément parce que la plupart d'entre nous, nous gaspillons la vie. Nous gaspillons notre vie. Nous ne savons pas vivre. Nous ne savons pas vivre profondément pour avoir la paix, le bonheur à chaque instant de notre vie quotidienne. Nous apprenons le dharma pour faire cela, pour savoir vivre profondément chaque instant que la vie nous offre à vivre. Par exemple, dans une inspiration, il faut trouver la paix et la joie dans l'autre inspiration. Il faut vivre une inspiration. Il faut bien vivre une inspiration. En inspirant, il faut vivre l'inspiration. Parce qu'en inspirant, on expérimente l'inspiration. Et dans cette inspiration, si on sait vivre, cette inspiration peut générer la paix. La plupart d'entre nous, nous ne pouvons pas le faire. Nous inspirons simplement et dans cette inspiration, nous pouvons avoir la colère, l'irritation, le souci. C'est pour ça que cette inspiration n'a pas de qualité. Vivre une inspiration. Et on inspire habilement de manière que dans cette inspiration, il y ait la paix. La paix est possible dans une inspiration. Si on a la paix dans une inspiration, on sait comment vivre. Si on ne l'a pas, on ne sait pas comment inspirer. Et dans le sutra de l'attention, de la pleine conscience, de la respiration, le Bouddha nous a appris comment respirer pour lâcher, relâcher tous les soucis, l'attention. Et nous venons au village des pruniers pour apprendre tout ça. Parce que nous pratiquons et les autres pratiquent avec nous. Par exemple, nous avons la chance de venir au village des pruniers pendant une semaine. Une semaine, c'est beaucoup. Si nous pratiquons de tout cœur pendant cette semaine, nous pouvons apprendre comment respirer, comment inspirer pour que l'inspiration nous apporte la paix. Nous vivons l'inspiration. Et quand nous entendons le son de la cloche, Nous devons vivre ce son de la cloche. Nous devons traverser ce son de la cloche. Ce son de la cloche peut durer 20 secondes ou 30 secondes. Par exemple, pendant qu'on invite un son de la cloche, après qu'on invite un son de la cloche, nous pouvons inspirer pendant 4 secondes et on expire pendant 6 secondes. Ça fait 10 secondes. Ensuite, on inspire 4 secondes et on expire 6 secondes pendant 6 secondes. Ensuite, on a l'opportunité d'inspirer pendant 4 secondes et d'expirer pendant 6 secondes. Alors, un son de la cloche est invité et c'est l'opportunité pour nous d'inspirer et d'expirer 3 fois. Ça fait, chaque fois, ça fait 10 secondes, 4 secondes pour l'inspiration et 6 secondes pour l'expiration. Et pour ceux et celles qui savent respirer, chaque inspiration peut générer la paix. Chaque expiration peut générer la paix. On est concentré sur l'inspiration et on trouve le plaisir. On a le plaisir en inspirant et on inspire de manière qui est la paix. En inspirant, on lâche prise de tous les soucis, de tout souci, de toute anxiété, de tout projet. On devient aussi léger qu'un nuage. Et quand le frère invite 3 sons de la cloche, nous avons l'opportunité de respirer 9 fois. De faire 9 respirations comme ça. Et nous pouvons générer beaucoup de paix. Si vous n'y arrivez pas, c'est parce que vous n'avez pas appris à faire ça. Il faut apprendre. Et tous les jours, vous pratiquez comme ça. Et après une semaine, quand vous rentrez chez vous, vous pourrez le faire sans problème. Une semaine suffit pour que vous appreniez à faire ça. Pendant que vous respirez comme ça, il y a une source d'énergie qui est générée. Premièrement, c'est la source d'énergie appelée la pleine conscience. La pleine conscience signifie savoir ce qui se passe. Et ce qui se passe, c'est qu'on inspire. On est en train d'inspirer et on sait qu'on inspire. C'est reconnaître. On reconnaît qu'il y a une inspiration qui se passe et on veut vivre profondément cette inspiration. C'est comme quand on prend une tasse de thé, on veut prendre cette tasse de thé de manière qu'on soit heureux, qu'on soit en paix, qu'on ait la joie. Alors en inspirant, on veut inspirer de manière qu'on ait le bonheur, la paix. Et l'énergie qu'on appelle la pleine conscience a la capacité de nous faire savoir qu'il y a une inspiration qui se passe. Et il faut nous concentrer sur l'inspiration. Quand on est concentré sur l'inspiration, les soucis pour le passé, la souffrance du passé, tout ça tombe. Et la pleine conscience entraîne une deuxième source d'énergie. La concentration. Pendant tout ce temps, notre esprit est concentré seulement sur l'inspiration et nous pouvons relâcher tous les soucis, les projets, tout. On est concentré seulement sur une seule chose, la respiration. Et pendant ce temps, nous sommes vraiment présents dans le moment présent. Nous devenons une personne libre. Nous ne sommes pas emportés par le passé. Nous ne sommes pas emportés par le futur. Nous avons la liberté pour vivre le moment présent, pour vivre notre inspiration et notre expiration. C'est la pleine conscience et la concentration. Et alors, après que notre frère invite un son de la cloche, nous commençons à inspirer et expirer. Et pendant l'inspiration et l'expiration, nous produisons l'énergie de la pleine conscience et de la concentration. Et l'objet de la pleine conscience, c'est l'inspiration et l'expiration. La concentration, l'objet de la concentration est l'inspiration et l'expiration. La pleine conscience est la pleine conscience de quelque chose. Et la concentration est la concentration de quelque chose. Ici, c'est la respiration. Et quand il y a la pleine conscience et la concentration, naturellement, la troisième source d'énergie est née. C'est la vision profonde. C'est une vision qui peut apporter beaucoup de joie. Premièrement, nous voyons que, tiens, je respire, je suis en train de respirer, c'est-à-dire je suis en train de vivre, je suis un être humain, j'ai la chance d'être un être humain, j'ai les deux yeux qui peuvent voir le ciel bleu, deux oreilles qui peuvent entendre le chant des oiseaux, deux poumons pour inspirer et expirer, ce sont des visions qui arrive quand nous avons la pleine conscience et la concentration. Nous avons une vie à vivre. Nous avons l'opportunité d'inspirer. Nous avons un corps. Et tout ça, ce sont des visions. Et quand notre esprit est présent et concentré, alors la vision profonde arrive. Nous savons que nous avons un corps, une vie, et nous avons l'opportunité à vivre profondément notre vie, vivre profondément nos respirations. Alors, avec la pleine conscience, la concentration et la vision profonde, ces respirations ont naturellement la paix, le bonheur. C'est un entraînement. C'est pour ça. En venant ici, il ne faut pas utiliser votre temps à parler, à téléphoner. Il ne faut pas utiliser votre temps à penser. Arrêtez vos pensées. Entraînez-vous à respirer et vivez profondément vos respirations. Chérissez chaque respiration et générez la paix, la joie, et c'est un défi. Parce que nous avons les conditions. Nous avons de la chance de rencontrer les pratiques, la pratique de la pleine conscience. Et nous venons ici pour faire cela. Et si nous respirons comme cela, nous pouvons générer la paix, la relaxation, la joie. Alors, ces respirations sont capables de guérir et de nourrir. Parce que, en respirant comme cela, nous lâchons prise de tout le passé, du futur, nous relâchons toute la tension du corps et nous sommes capables d'apprécier, de nous réjouir de l'inspiration et de l'expiration. Les pratiquants sont capables de se réjouir de l'inspiration et de l'expiration. Si vous ne trouvez pas le plaisir en inspirant et en expirant, vous n'êtes pas encore un yogi, un pratiquant. Il faut faire en sorte que pendant l'inspiration et l'expiration, vous trouviez la joie, le plaisir. C'est ça ce qu'on appelle le bonheur du Dharma, la joie du Dharma. La joie du Dharma, ou bien ce qu'on appelle la joie procurée par la pratique de la méditation. La joie de la méditation. Si vous respirez, vous êtes fatigué, vous n'êtes pas heureux, alors vous ne savez pas comment respirer. Si pendant la respiration, vous avez la joie du Dharma, vous êtes nourri, alors là, vous êtes vraiment un yogi, un pratiquant. Et cette joie du Dharma, cette joie de la méditation, ce bonheur du Dharma, cette joie de la méditation, sont la nourriture pour les pratiquants. C'est pour ça, dans les sutras, on dit la joie procurée par la méditation comme nourriture. La joie de la méditation comme nourriture quotidienne. Alors pendant la méditation assise, la marche méditative, nous sommes en train de manger. Nous sommes en train de consommer la nourriture et alors la joie du Dharma, la joie de la méditation nous nourrissent et nous guérissent. C'est pour ça, vous venez au village des pruniers, il faut apprendre à vivre les inspirations et les expirations. Ces respirations vous aident à générer la paix, la joie. Et en générant tout ça, vous pouvez lâcher prise des soucis, des tensions dans votre corps et dans votre esprit. En entendant un son de la cloche, vous pouvez vous réjouir de vos 9 respirations. 9 inspirations et 9 expirations, vous pouvez générer tant de paix et de joie et de bonheur. Et si vous avez la joie, la paix et le bonheur, vous avez quelque chose à offrir à vos bien-aimés. Si vous n'en avez pas, vous ne pouvez pas aimer, vous n'avez rien à offrir. C'est pour ça que nous pouvons vivre une inspiration. Nous pouvons vivre un son de la cloche. Nous vivons une vie et cette vie est faite des sons de la cloche, des respirations. Maintenant, nous marchons, nous faisons un pas de manière que ce pas est la paix, la joie et le bonheur. De votre quartier, vous allez à la salle de méditation. Il faut vous entraîner à marcher. Marcher de manière que chaque pas puisse générer la paix, la joie et le bonheur. C'est un défi. Le frère, notre frère, a décidé de devenir moine. Notre sœur est devenue, a décidé de devenir moniale. Et quand vous marchez, vous marchez de manière que vous ayez la paix, la joie et le bonheur. Et si vous courez comme si vous étiez poursuivi par une fantôme, alors c'est un gaspillage de votre vie. Pourquoi nous avons l'opportunité et nous ne la saisissons pas et nous ne faisons pas cela? Pourquoi vous courez comme ça? Pourquoi vous ne marchez pas de manière que chaque pas vous apporte la joie, le bonheur, la paix? Nous avons de très beaux gathas comme je suis en train de faire des pas légendaires. Je suis en train de faire des respirations légendaires. Je suis en train de vivre les moments guérissants. Le bonheur est à chaque pas que je fais sur ce chemin. Là, on peut produire la joie, on peut générer la joie, la paix à chaque pas et ça nous nourrit. Alors, au village des Pruniers, en marchant, il faut apprendre à marcher de manière que chaque pas produise la paix, la joie, le bonheur. Et nous devons vivre chaque pas. Chaque pas est la vie. Chaque pas est la vie. C'est pour ça, chaque pas que nous faisons, nous devons vivre profondément la vie qui nous est offerte. Sinon, ce serait très dommage. Au village des Pruniers, nous avons appris qu'en marchant, nous pouvons combiner la respiration et les pas. Par exemple, quand nous marchons, quand nous faisons la marche méditative avec la sangha, nous marchons à une vitesse normale. Et quand nous marchons seuls, nous pouvons marcher plus lentement. Chaque pas est une inspiration et une expiration. Nous vivons profondément ce pas et nous pouvons marcher aussi lentement que possible et nous goûtons, nous savourons chaque respiration, nous savourons la paix, la joie et le bonheur à chaque pas, dans chaque pas. Chaque pas est une respiration, c'est ce qu'on appelle la marche lente, la marche méditative lente. Par exemple, nous avons 10 minutes. Pourquoi ne pas utiliser ces 10 minutes pour marcher seul? Et chaque respiration accompagne un pas et nous marchons de manière que nous soyons en contact avec les merveilles du ciel et de la terre. Nous marchons de manière que chaque pas nous aide à revenir au moment présent. Nous marchons de manière que chaque pas est la paix, la joie, le bonheur. Et ça, tout le monde peut le faire. Si nous voulons vraiment, nous tous pouvons le faire. Et c'est très agréable. Cette pratique est très agréable. Ça ne nous fatigue pas, au contraire, ça nous apporte la joie. Et quand nous marchons avec la Sangha, nous ne marchons pas aussi lentement. Nous marchons à une vitesse normale, en inspirant. Nous faisons 2 ou 3 pas. Ça c'est quand nous ne montons pas une côte. Quand nous montons une côte, c'est plus lent. Par exemple, ça c'est le chemin plat. Quand nous inspirons, nous faisons 3 pas. 1, 2, 3. Alors, comme le vietnamien est monosyllabique, c'est très facile à pratiquer. Chaque pas, on dit silencieusement un vers. Je marche. Je suis en train de marcher. Pour l'inspiration. Et en expirant, on dit silencieusement. On dit mentalement, je fais des pas légendaires. Je fais des pas légendaires. Et ces mots nous aident à avoir la vision profonde, à voir que, en tant qu'être humain, nous avons encore 2 jambes fortes. Nous pouvons faire des pas solides, nous pouvons marcher avec la communauté. C'est une chance. Alors c'est quelque chose que nous sommes en train de réaliser, de faire, et ce n'est pas un souhait. Nous sommes au village des Pruniers, nous sommes en train de marcher avec Thaï, avec des amis venant de beaucoup de pays. Alors, c'est une opportunité légendaire. Nous sommes en train de faire des pas légendaires. Nous sommes en train de faire des respirations légendaires. Ou bien, je suis en train de faire des pas légendaires. Et puis, on peut répéter, je suis en train de faire des pas légendaires. 4 ou 5 fois, et puis on passe à une autre phrase. Je suis en train de faire des respirations légendaires. Alors, générer la joie et le bonheur, c'est très facile. Ce n'est pas difficile du tout. C'est très amusant, c'est facile. Et Thaï pratique comme ça. Et il y a tant de gatha comme ça. Pour notre pratique, et ce ne sont pas les idées, ce sont des mots zen qui nous aident à nous concentrer. C'est comme lorsque nous montons les escaliers, nous tenons la rampe. Nous tenons une rampe pour monter. Pour ne pas tomber. Et nous montons et descendons solidement. Alors, ces mots ne sont pas des idées, mais ce sont des mots zen. Nous pouvons nous appuyer sur ces mots zen pour maintenir la pleine conscience et la vision profonde. Nous voyons que nous avons beaucoup de chance et nous pouvons faire des pas en paix dans le bonheur. Par exemple, nous montons, alors naturellement, les trois pas deviennent deux, c'est-à-dire nous faisons, pour une inspiration, nous faisons moins de pas. Alors, pendant une inspiration, on fait deux pas, et on dit silencieusement, on dit mentalement, je fais des pas légendaires. Je fais des pas et en expirant, on fait trois ou quatre pas et on dit mentalement, des pas légendaires. Et en marchant comme cela, sur la côte, ce n'est plus fatigant, ce n'est pas fatigant. On marche tranquillement et on est concentré sur les pas. On profite, on savoure chaque pas que nous faisons. Et c'est pour ça la méditation nous apporte la joie et le bonheur. Pendant la méditation assise, surtout au début, il faut utiliser la respiration. On respire de manière que la respiration soit calme. Et on harmonise sa respiration. On calme sa respiration. Et on fait en sorte que son corps soit détendu, droit, détendu et confortable. Ça, c'est calmer le corps. Alors, chaque pas et chaque respiration peut générer la joie et le bonheur à chaque son de la cloche. Pendant la méditation assise, on génère la joie et le bonheur. Et pendant le repas, c'est pareil. Pendant le repas, on ne pense pas. On a déjà beaucoup pensé. Pourquoi on pense davantage? Pendant le repas, ne pensons pas. Sentons simplement, parce que la pleine conscience, la concentration et la vision profonde nous montrent que c'est un environnement superbe. On mange avec taille, avec nos amis de pratique et nous nourrissons avec l'énergie de la pleine conscience, la concentration et de la vision profonde. En respirant, on est servi, on s'assoit. On n'attend pas les autres, mais on respire tranquillement. On n'a pas encore commencé le repas, on n'a pas encore commencé à manger, mais on est déjà nourri avec la respiration. C'est une opportunité pour nous de générer la joie, le bonheur. Et quand la dernière personne arrive, l'atmosphère dans la salle de méditation est déjà très puissante, l'énergie est déjà très puissante. On n'attend pas, on respire et l'énergie collective de la pleine conscience et la concentration est très puissante. Et tout le monde fait ça. On se nourrit, on nourrit les uns les autres avec l'énergie de la pleine conscience et la concentration et de la vision profonde. Quand on pratique avec une sangha, on a cet avantage. Sa respiration, c'est pas nourrir soi-même et il nourrit aussi nos amis. C'est pour ça, au retour du village des Pruniers, si nous voulons continuer, alors nous cherchons un groupe d'amis pour s'asseoir ensemble toutes les semaines, pour marcher en pleine conscience ensemble, pour manger en pleine conscience ensemble. Alors, un repas est fait de chaque bouchée. Nous prenons une cuillère pour prendre une cuillerée de riz. Et pendant ce geste, nous faisons attention, nous prêtons attention à notre cuillerée de riz. Notre esprit ne pense pas. En mangeant, nous prêtons attention seulement à deux choses. La nourriture que nous mangeons et nos amis de pratique qui mangent avec nous. Nous sommes en pleine conscience de ces deux choses seulement, la nourriture et la sangha, la pleine conscience et la nourriture et la pleine conscience et la sangha. Nous arrêtons toute pensée, nous nous souvenons que nous avons la chance de manger avec la sangha. Alors, en soulevant la cuillère, nous prenons la pleine conscience. Nous voyons que ceci est un cadeau de la terre et du ciel. Cette nourriture, ces graines de riz sont des cadeaux de la terre et du ciel. Le ciel et la terre ont coopéré pour nous offrir cette nourriture. Et il suffit d'une seconde, en inspirant ou en expirant, pendant une seconde ou deux secondes pour voir ça. Et c'est la vision profonde. Souvent, nous mangeons sans savoir que nous sommes en train de manger, sans savoir ce que nous mangeons. Parce que notre esprit n'est pas présent. Notre esprit n'est pas là. Tai signifie présent. Ici, nous avons une sœur qui s'appelle Tai Nim. Décoration avec la présence. Tambok Tai signifie notre esprit n'est pas présent. Quand notre esprit n'est pas présent, ce que nous regardons, nous ne voyons pas. Nous ne voyons pas ce que nous regardons, nous n'entendons pas ce que nous écoutons. Et nous ne connaissons pas le goût de ce que nous mangeons. C'est aussi une phrase zen. quand notre esprit n'est pas présent, nous regardons sans voir, nous écoutons sans entendre, nous mangeons sans connaître le goût. Alors, cette expression, l'esprit n'est pas présent, c'est équivalent à l'oubli. Alors, pendant le repas, il faut être vraiment présent. Si nous voulons être vraiment présents, il faut arrêter toute pensée. Tout à l'heure, nous aurons la chance de manger ensemble dans cette salle de méditation en cercle. Alors, la première chose à faire quand nous arrivons ici, quand nous posons notre assiette par terre, alors la première chose à faire, c'est arrêter toute pensée. Et en mangeant, comme ça, nous nous nourrissons. Et au son de la cloche, nous faisons les cinq contemplations et nous commençons à manger ensemble. Et nous vivons chaque instant. Quand nous prenons une cuillerée de nourriture, nous contemplons que c'est le cadeau de tout l'univers, du ciel et de la terre. Et en regardant la nourriture pendant une seconde, nous voyons la vérité que ceci est un cadeau de tout l'univers, et quand nous mangeons, nous sommes en contact avec tout l'univers, et en mâchant, nous maintenons cette prise de conscience. Nous ne mâchons pas les soucis, la souffrance. Nous mâchons seulement la nourriture. Et nous vivons cette bouchée de nourriture, cette cuillerée de nourriture. Alors, non seulement la nourriture nous nourrit, mais nous sommes nourris aussi par la paix, la joie, le bonheur, et c'est un art de vivre. Nous pouvons mâcher 30 fois, au moins 30 fois. Et en mâchant de cette manière, nous respirons, nous sommes en contact avec le ciel et la terre et nous ne pensons pas. Et le secret de la réussite, c'est la non-pensée. Parce que la pensée nous enlève du moment présent. Nous pensons beaucoup et nos pensées ne sont pas utiles. Nos pensées ne sont pas productives. Et s'il faut penser, nous pensons en pleine conscience et dans la concentration, et ces pensées sont plus productives parce que elles apportent la vision profonde. La plupart de nos pensées ne sont pas productives. Plus nous pensons, plus nous devenons confus. Et avec la concentration et la vision profonde, nos pensées sont très productives. La pensée inutile est appelée le discours mental. Ça nous distrait, ça nous empêche d'entrer en contact avec la vie. C'est pour ça qu'il faut arrêter le discours mental pendant le repas, pendant la marche méditative, pendant la méditation assise. Nous mâchons 30 fois et naturellement, cette bouchée de nourriture devient succulente. Ça devient très, très doux. Cette nourriture devient douce et délicieuse. Et si nous mâchons 40 fois, ça devient encore plus délicieux. Nous ne mangeons pas beaucoup, mais nous nous sentons satisfaits, comblés. Nous n'avons plus faim, nous sommes rassasiés. Alors nous vivons chaque bouchée. et nous mangeons de manière que nous ayons la paix, la joie et le bonheur. Et c'est une épreuve, c'est un défi. Et nous sommes soutenus par nos amis, par les autres, pendant tout le repas. Si vous arrivez à manger de cette manière, ici, alors quand vous rentrez chez vous, vous pourrez continuer cette pratique. Vous pourrez manger, continuer à manger comme cela. Tout ce que vous faites, vous le faites en pleine conscience, dans la concentration, avec la vision profonde. Et notre qualité de vie est augmentée et nous ne regrettons pas. Un jour, quand nous devenons pluie, nous ne regretterons pas tout le temps quand nous étions nuages. Prenez les 30 versets. Quand nous lisons le 5e verset, Sœur Jiang Fuda, venez écrire le verset en chinois. Tai a écrit une calligraphie. Prends ton thé correctement. Et Tai est en train de le faire. Écris plus de versets. Parce que nous avons célébré le nouvel an lunaire trop longtemps, maintenant nous devons rattraper. Le mieux à faire maintenant, c'est de respirer. Trois versets suffisent. C'est le 5e, n'est-ce pas? Ici, c'est Manas. Premièrement, Nangbin signifie le sujet fait manifester. Ce mot Bin signifie manifester. Faire manifester. C'est le sujet qui pousse la manifestation. C'est le manifesteur. C'est la force qui pousse la manifestation. Alors, le mot manifestation est différent que création. Création, c'est à partir de rien, quelque chose devient existant. Comme le mot création. Et le mot créer, c'est à partir de rien, quelque chose devient existant. Tandis que manifestation est différent. Par exemple, le nuage, il n'est pas à partir de rien, il devient existant. Non. Avant de se manifester en tant que nuage, il existait déjà en tant que nuée, vapeur d'eau. On ne peut pas voir la vapeur d'eau. Elle ne se manifeste pas encore en tant que nuage. C'est pour ça le mot manifestation est différent de du mot création. Ça existe déjà, mais ça se manifeste simplement. C'est ça la différence. Alors, le manifesteur, il y a le manifesteur et le manifesté. Par exemple, en regardant le ciel, nous voyons la lune et les étoiles. Là, ce sont les manifestés. En regardant là en bas, nous voyons la rivière, les montagnes. Alors, nous voyons, ce sont les manifestés. Et le manifesteur, c'est l'alaya. Et les deux, ne sont pas séparés. Nous pouvons prendre l'exemple de la vapeur d'eau comme la vapeur d'eau comme manifesteur et le nuage est le manifesté. Quand nous regardons le nuage, quelque chose qui est déjà manifesté, qui se manifeste déjà, alors nous voyons aussi le manifesteur dans le manifesté. On ne peut pas enlever le manifesté du manifesteur ou le manifesteur du manifesté. Alors, dans le christianisme, les concepts créateur et création sont différents. La plupart, pas tous, mais la plupart des chrétiens pensent que Dieu est le créateur et l'univers est la créature. Et créateur et créature peuvent être séparés pour exister. Mais la vapeur d'eau et le nuage ne peuvent pas être séparés. La vapeur d'eau devient nuage, alors la vapeur d'eau reste dans le nuage. On ne peut pas enlever la vapeur d'eau du nuage. La vapeur d'eau est le manifesteur et le nuage est le manifesté. Mais dans le christianisme, il y a les théologiens qui ont trouvé que ont trouvé le non-dualisme entre créateur et créature. Et en regardant le créateur, il voit la créature, et en regardant la créature, il voit le créateur. Alors, la force qui fait manifester l'univers et la vie, la première force est l'alaya. La deuxième force est le manas. C'est le premier manifesteur. Et l'alaya est le deuxième manifesteur et le manas. Maintenant, alors, le second manifesteur est le manas. C'est facile à comprendre. Le deuxième manifesteur, c'est le manas. L'autre manifesteur. Alors le premier manifesteur, alors la première ligne, le deuxième manifesteur, c'est le manas. Et puis l'autre, ce manas s'appuie sur l'autre, c'est-à-dire la conscience du tréfonds, l'alaya, pour se manifester. Il prend l'autre comme une base pour se manifester et il retourne. Pour le saisir, pour saisir l'autre. C'est comme une lierre qui, une plante rampante qui monte et qui saisit, qui entoure l'arbre. Et ici, c'est pareil pour le manas. Ici, nous avons la conscience du tréfonds, le premier manifesteur. Et dans ce premier manifesteur, il y a un élan vital. Et à partir de cet élan vital, il y a le deuxième manifesteur, le manas. Alors, basé sur la conscience du tréfonds, le manas se manifeste et il retourne à la conscience du tréfonds pour la saisir. Alors le deuxième manifesteur s'appelle manas. Il s'appuie sur l'autre manifesteur pour se manifester. Il retourne à l'autre pour le saisir. Sa nature et sa forme sont lamentation. La connexion. Et le manas est le centre des pensées et la base des pensées. Et c'est une sorte d'intuition. Et ça se manifeste à partir de la vitalité. Et il reconnaît que ce corps est lui-même, est le sien. nous savons que nous sommes faits des cinq éléments de notre corps, de nos sensations, de nos perceptions, de nos formations mentales et de notre conscience. Alors premièrement, le manas se manifeste à partir de la conscience du tréfonds et il saisit ce corps pour l'approprier, pour le considérer comme le sien, comme lui-même. Alors premièrement, ce corps n'est pas l'objet de n'est pas un objet de saisie. Ce corps est très libre. Mais le manas le saisit et le considère comme le sien, comme lui-même, comme son objet. C'est une vue du corps. C'est une vue qui dit que ce corps est moi. Alors, le manas a son objet. Le manas est un sujet qui a son objet. Et son objet est ce corps, est le corps. Alors, le premier manifesteur, c'est l'alaya, et le deuxième est le manas. Et la nature, comme la fonction du manas, et la mentation, la condition. Cogitation. C'est une perception directe. Et dans l'alaya, pour l'alaya, ce corps est merveilleux, ce corps est libre, mais pour le manas, ce corps est son objet d'amour, c'est le sien, c'est un soi auquel il s'accroche. Et c'est une image créée par le manas. Alors ce corps, dans le laya, il est la réalité telle qu'elle est. La chose en soi. Mais quand le manas le regarde, il voit que ce corps est le sien. Et donc, ce n'est plus la chose en soi, mais c'est une image créée par le manas. Et jour et nuit, il s'accroche à ce corps et le considère comme le sien. Il ne sait pas que ce corps est fait de la rivière, de la montagne, des arbres. En réalité, c'est l'environnement qui fait manifester ce corps, et en regardant le corps, nous voyons l'environnement. Et l'homme est fait des éléments de l'environnement. Si on enlève ces éléments d'environnement, il n'y aurait plus l'homme. Et le manas dit que ceci n'est pas moi, c'est ce corps qui est moi. Et donc, il a une image tordue du corps qu'il considère comme le sien. Basé sur l'alaya, pour se manifester, et puis il retourne à l'alaya pour le saisir comme son objet, sa nature, comme sa forme, son lamentation. Nous avons le texte en chinois, en sanskrit, et la traduction en vietnamien, en anglais. Maintenant, nous passons au sixième verset. Ensemble avec les quatre afflictions, ensemble avec le manas, il y a quatre afflictions. Klesha en sanskrit. Allez ensemble. Il y a quatre afflictions. Ces quatre afflictions sont la vue du soi, le complexe du soi, l'ignorance du soi, ce sont les perceptions fausses. Alors, il y a la vue du soi, l'ignorance du soi, le complexe du soi et l'attachement au soi. Ce sont les quatre afflictions. Une vue du soi, une perception fausse du soi, et puis le complexe du soi. Quand nous considérons quelque chose comme le mien, alors il y a trois complexes qui sont nés. C'est le complexe de supériorité. C'est le premier complexe. Je suis meilleur, je suis supérieur que l'autre. Et le deuxième complexe, c'est le complexe d'infériorité. Je suis inférieur à l'autre. Je ne vaux rien. Alors, nous avons le premier complexe qui est le complexe de supériorité. Le deuxième, c'est le complexe d'infériorité. Et puis, à part ça, il y a encore le troisième complexe qui est le complexe d'égalité. Je ne suis pas inférieur à lui, je suis égal à lui, je suis aussi bien que lui. Alors, il y a trois complexes. Et puis l'attachement au soi. Alors, c'est pour ça qu'on appelle le manas comme la conscience d'amour. La conscience d'aimant, la conscience de l'amoureux. Cette conscience va toujours ensemble avec les quatre afflictions qui sont la vue du soi, l'ignorance du soi, le complexe du soi et l'attachement au soi. À part ça, il va ensemble aussi avec les formations mentales comme le contact, etc. Cette conscience va ensemble avec les quatre afflictions et les cinq formations mentales universelles qui sont contact, attention, etc. Vous avez compris? Qui n'a pas compris? Levez la main. Cette conscience va ensemble avec les quatre afflictions, l'ignorance du soi, vue fausse du soi, complexe du soi et l'attachement au soi. Et il va toujours ensemble aussi avec les cinq formations mentales universelles. Et puis le dernier verset. Il est ni bon ni mauvais. Il est voilé parce qu'il se manifeste à partir du désir de vivre, de la volonté de vivre. Et il s'accroche à ce corps. C'est pour ça qu'il ne voit pas la vérité. C'est pour ça qu'il est voilé. C'est pour ça. Mais il n'est ni bon ni mauvais. Doucement, on comprendra pourquoi il n'est ni bon ni mauvais. Alors, il fait partie de la catégorie voilée. Ni mauvais, ni bon. Où que l'Alaya soit, il est là. Il suit l'Alaya comme l'ombre de l'Alaya. Il suit l'Alaya comme l'ombre qui suit l'image. Si l'Alaya vient au village des pruniers, il vient au village des pruniers. Et quand nous atteignons l'état d'arahat, pour entrer dans la concentration de la cessation, alors il disparaît. Il n'existe plus. Et pour le remplacer, c'est la sagesse de la non-discrimination. C'est la non-discrimination. Il n'y a plus le moi et l'autrui. On transcende les trois complexes. Il n'y a plus d'ignorance. Il n'y a plus le soi. Et cette sagesse est la sagesse de la non-discrimination. Alors, c'est la pensée de plusieurs maîtres de la psychologie bouddhiste. Quand on pratique, quand on arrive au chemin supramondain, on a cette sagesse, la non-discrimination, et le manas n'est plus. Et ces deux lignes montrent que l'auteur n'a pas réalisé la vue non dualiste. Dans le bouddhisme, nous avons l'idée des cinq vues. Les cinq vues. Premièrement, c'est la vue du corps. La vue que ce corps est moi. C'est une perception fausse, c'est une vue fausse. Il suffit de contempler la présence de nos ancêtres dans ce corps pour transcender cette vue fausse. Ce corps n'est pas moi, ce corps n'est pas le mien. Ce corps est la continuation de tous mes ancêtres. Et c'est très naïf de croire que ce corps est à moi seul. Non, ce corps n'est pas le mien. Il n'est pas à moi. Je ne suis pas propriétaire de ce corps. Ce corps est simplement la continuation de tous mes ancêtres. Il suffit de contempler la présence de mes ancêtres en moi et je peux transcender cette vue fausse que ce corps est moi. Et deuxièmement, la deuxième vue fausse est la vue d'extrême. C'est un grand obstacle de notre perception, de nos perceptions. À cause de cette vue d'extrême, nous n'atteignons pas la vérité. Par exemple, nous imaginons que le sujet et l'objet de la perception sont deux choses séparées. Et puis nous imaginons qu'il y a une conscience subjective à l'intérieur. Il y a l'idée de l'intérieur et de l'extérieur. Il y a l'idée du subjectif et de l'objectif. Il y a une conscience subjective à l'intérieur et un monde objectif à l'extérieur. Et les deux peuvent exister indépendamment. Il y a le monde objectif, qu'il y ait le monde objectif ou non, ma conscience est là, ma conscience existe. Qu'il y ait votre conscience ou non, le monde objectif existe toujours. Alors, c'est ce qu'on appelle la vue dualiste. C'est parce qu'on ne sait pas que la conscience et le monde s'appuient l'un sur l'autre pour exister. Le sujet de la perception et l'objet de la perception ne peuvent pas se séparer. En Occident, il y a une école philosophique appelée la phénoménologie. Et cette école enseigne que la conscience a toujours l'objet, un objet. La conscience est toujours la conscience de quelque chose. Il est impossible d'avoir la conscience tout court. La vue doit être la vue de quelque chose. La souffrance est toujours la souffrance de quelque chose. La tristesse est toujours la tristesse de quelque chose. Et ils ont commencé à voir la non-dualisme entre le sujet et l'objet. Et les sciences sont pareilles. Au début, les sciences pensent qu'il y a un scientifique, un observateur qui observe la réalité des choses. Et l'observateur et la chose sont deux choses séparées, sont deux réalités séparées. Mais aujourd'hui, les sciences ont compris que au lieu d'être observateur, il faut être participant. On ne peut pas rester à l'extérieur pour observer quelque chose. Il faut devenir un. Et donc, ils ont commencé à voir le non-dualisme. On croit qu'il y a l'intérieur et l'extérieur, le haut et le bas, le gauche et le droit, séparément, séparés. Ça, c'est la vue d'extrême. La vue d'extrême, il y a la mort séparée de la naissance, le pur séparé de l'impur, le bon séparé du mauvais. Et on choisit l'un et on rejette l'autre. L'exemple que le villager prunier utilise souvent, c'est la feuille de papier. On voit clairement qu'il y a deux côtés, le recto et le verso. C'est très clair qu'il y a le recto et le verso, mais la vérité, c'est qu'on ne peut pas séparer l'un de l'autre. On ne peut pas enlever l'un de l'autre. Vous ne pouvez pas venir amener l'un à Bordeaux et l'autre à Paris. Non, c'est pas possible. On ne peut pas les séparer. Dès qu'il y a le recto, il y a le verso. Dès qu'il y a le verso, il y a le recto. Et c'est pareil pour l'intérieur et l'extérieur, le haut et le bas, le sujet et l'objet, le pur et l'impur, le bon et le mauvais, le bonheur et la souffrance. Et quand nous croyons que ces deux choses peuvent être séparées, peuvent être indépendantes, alors nous avons la vue d'extrême, la vue fausse. Et pour nous libérer de cette vue fausse, il faut avoir la vision de l'inter-être. Sahabu, en sanskrit. Il faut toujours deux. Il est impossible d'avoir seulement l'un des deux. Maintenant, on dit, moi j'aime le droit, je n'aime pas le gauche. Et puis, je coupe ce marqueur en deux pour jeter le gauche. Non, dès qu'il y a le droit, il y a le gauche. C'est impossible d'avoir l'un sans l'autre. C'est la coexistence. C'est l'inter-être. Comme le lotus et la boue. Le lotus et la boue coexistent. Sans boue, il n'y aurait pas de lotus. Le lotus devient la boue et la boue devient le lotus. Alors, maintenant, on espère qu'il y a seulement le lotus et qu'il n'y a pas la boue. Alors, c'est impossible. C'est pour ça au village des pruniers, on dit clairement qu'il ne faut pas chercher un bonheur, qu'il ne faut pas chercher un lieu où il y a seulement le bonheur et pas la souffrance. Le royaume de Dieu ou la terre pure, c'est pareil. C'est impossible d'avoir un lieu où il y a seulement le lotus sans la boue. Il est impossible d'avoir un lieu où il y a seulement le bonheur sans la souffrance. Et ici, on est emprisonné dans l'idée que seulement quand on abandonne totalement le manas, on a la sagesse, la non-discrimination. C'est comme quand on abandonne complètement la boue, on aura le lotus. Alors c'est faux. Ça veut dire qu'en vous, il y a les souffrances, il y a les douleurs. Les énergies sexuelles, les formations mentales d'attachement, de complexe, les vues fausses, tout ça, c'est la boue. Et si vous allez à l'église ou à un centre de pratique, on vous dit, j'ai un moyen pour que vous puissiez balayer tout ça pour avoir purement seulement le lotus au village des pruniers, nous ne disons pas cela. Ici, nous disons qu'il faut savoir utiliser la boue pour produire le lotus. Si vous avez souffert, si vous avez eu l'attachement, alors c'est la boue. Et si vous n'êtes pas heureux, c'est parce que vous avez laissé tout ça vous envahir, mais vous n'utilisez pas la boue pour produire le bonheur. Parce que le bonheur est fait de la souffrance. Sans souffrance, il n'y aurait pas le bonheur. Le lotus est fait de la boue. Sans la boue, il n'y aurait pas de lotus. Et c'est la vérité. C'est ce que vous devez apprendre au village des pruniers. La première chose à faire, c'est d'accepter votre boue. Vous avez de la boue, c'est bon. Ça va. Ça va d'avoir la boue. Et le fait d'accepter votre boue, ça vous apporte déjà la paix. Vous êtes déjà en paix. Vous n'avez pas hâte d'enlever toute la boue. Le point, c'est de ne pas vous laisser submerger par la boue. Mais le point, c'est de savoir utiliser la boue pour faire pousser le lotus. Parce que dès qu'il y a la boue, il y a le lotus. Dès qu'il y a la souffrance, il y a le bonheur. Et quand vous ne savez pas utiliser la boue, vous ne pouvez pas faire pousser le lotus. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin d'enlever tout le manas pour avoir la sagesse et la non-discrimination. Même quand le manas est là, on peut déjà produire la sagesse et la non-discrimination. Et justement, parce qu'on a si on a la sagesse de la non-discrimination, c'est grâce à la présence du manas. C'est pour ça que quand vous êtes au village des pruniers, il faut accepter votre souffrance, vos faiblesses. Et là, vous êtes en paix et vous apprenez à utiliser vos faiblesses, votre souffrance, pour générer le bonheur. Sans la boue, il n'y aura pas de lotus. Sans manas, il n'y aura pas la sagesse et la non-discrimination. C'est pour ça, c'est faux de dire que quand on arrive à l'état d'arahat, le manas cesse et il y a la sagesse et la non-discrimination. Sans manas, il n'y aura pas la sagesse de la non-discrimination. C'est comme sans l'œil, comment peut-on avoir la vue? Sans oreille, comment peut-on avoir l'ouïe? Et c'est le manas. Sans le manas, comment peut-on avoir le arahat? Et avec le manas, on peut utiliser le manas comme un outil de la pratique. Aujourd'hui, il fait ensoleillé. Peut-être il y a moins de vent. On peut faire la marche méditative.